Radio Kapi.
Le journal, c'est avec Gisèle Cage.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'écoute de votre journal. Voici le point saillant de l'actualité. Appel au dialogue en RDC. João Lourenço tend la main dans un contexte de crise persistante dans l'est du pays. Le président angolais appelle à un dialogue inclusif, un message salué par Moïse Katumbi qui réaffirme son soutien au processus de Luanda. Dans le Olomami, Kanyamakase se transforme une nouvelle ville en construction. D'anciens colonnes participent à l'édification des Mandala City, un projet ambitieux supervisé par le service national. Gestion des actifs miniers, la coalition Congo n'est pas à vendre, interpelle le gouvernement. Dirk Chaka, coordonnateur de la coalition, est l'invité du journal. Il revient sur l'appel à un audit des cessions d'actifs de la GECAMINE et plaide pour une meilleure transparence. Dans un contexte de tensions persistantes dans l'est de la République démocratique du Congo, le président angolais João Lourenço a, dans son discours sur l'état de la nation prononcé le 18 octobre, exhorté les acteurs politiques congolais à engager un dialogue inclusif pour restaurer la paix. Un message salué par Moïse Katumbi, président du parti Ensemble pour la République, qui, dans un communiqué officiel, réaffirme son soutien au processus de Luanda et appelle à l'unité nationale autour des efforts diplomatiques et militaires. Poursuivons ce journal avec l'opposant d'Elie Sessanga qui tire la sonnette d'alarme face à la précarité sociale grandissante en République démocratique du Congo lors d'un meeting tenu ce samedi au terrain Missioni dans la commune de Selimbawa, Kinshasa. Le président du parti en vol a dénoncé la souffrance du peuple congolais, aggravée selon lui par l'insécurité persistante dans l'Est, la corruption, le détournement des fonds publics et la dépréciation du franc congolais. Elie Sessanga appelle les Congolais à s'unir pour bâtir un Congo nouveau, juste et souverain. Il plaide également pour un dialogue politique inclusif et propose un plan en 10 points pour sortir le pays de la crise actuelle. Le compte-rendu avec Grace Hamzati.
Le premier axe, c'est dire non à la guerre sans fin. Pour l'opposant, il faut imposer un véritable dialogue national, rétablir les libertés publiques et les valeurs du pacte républicain. Deuxièmement, restaurer la souveraineté. Ici, il demande de mettre fin à toute présence armée étrangère et bâtir des forces de sécurité dissuasives pour la nation. Troisièmement, réunifier les Congo en garantissant la circulation des Congolais et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Le quatrième point, c'est préserver la vie des Congolais. Ensuite, créer des emplois réels, pas des slogans. Le sixième axe, c'est protéger la démocratie. Pour lui, il faut faire respecter strictement la constitution du 18 février 2006, pas de glissement, pas de troisième mandat. Septièmement, bâtir un État juste et efficace. Le point 8, c'est en finir avec la République de la prédation. À cet axe, Sessanga insinue qu'il faut rompre avec le tribalisme, le clientélisme, la connivence, la corruption et l'impunité. L'avant-dernier axe, c'est refonder le Congo. Enfin, rendre la dignité aux Congolais. Ici, l'opposant appelle au renforcement de la justice pour une meilleure redistribution des richesses par les services publics, la discipline collective et le respect de l'intérêt général.
Autre sujet qui retient l'attention dans la province du Olomami, la cité de Kanyamakase s'est longtemps perçue comme une simple brousse est en pleine métamorphose. Une ville moderne baptisée Mandala City y prend forme. Particularité de ce projet, il est porté par d'anciens Kuluna, aujourd'hui convertis en bâtisseurs de la nation. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabwit, qui supervise personnellement les travaux. Les détails avec Paulin Munanga.
À Mandala City, on y trouve des villas bien équipées avec 72 chambres, un hôtel ultra moderne et bien équipé, une grande salle de conférence, une piscine, une cour de tennis, un terrain de basket, une salle de sport et même un bureau du président de la République est en chantier. Ces ouvrages sont construits par des anciens Kuluna qui ont appris les métiers au service national et qui sont devenus des bâtisseurs de la nation. Pour le commandant du service national de Kanyamakasese, le lieutenant général Jean-Pierre Kasungo Kabouik, il est question de créer les bonnes conditions de travail, surtout pour des visiteurs de marque.
Nous avons de plus en plus de visiteurs de marque, comme le président de la République, commandant suprême. Nous nous anticipons déjà, nous disons, si jamais il arrivait ici, il dit bon, voilà, je vais tenir une réunion. On tient la réunion dans une tente, dans nos vieux bâtiments. Non, on lui crée quand même les conditions. C'est lui, commandant suprême du service national. Il faut quand même créer les bonnes conditions de travail.
Kanyamakasese, c'est aussi l'élevage. De quatre têtes de bétail à son avènement comme commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kasungo Kabouik annonce que le service national compte plus de 6 000 têtes aujourd'hui et l'objectif est d'atteindre 10 000 têtes d'ici l'année prochaine. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Et dans la province du Tanganyika, un souffle d'espoir pour les communautés des Miketo et Ongwa grâce au financement du Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies. Des centres de santé et des maternités ont été construits et réhabilités dans ces localités. Objectif, réduire les décès maternels évitables et renforcer la cohésion entre les communautés Twa et Bantu. Et jusqu'ici, les femmes de la région devaient parcourir jusqu'à 35 kilomètres pour accéder à des soins prénatales, là où accoucher. Aujourd'hui, elles peuvent bénéficier des services de santé de qualité à proximité de chez elles. Blaise Makassi s'est rendu sur place. Voici son reportage.
C'est en chanson que les femmes du camp Elia et du village Ongwa ont accueilli la délégation venue évaluer les travaux de finition de la maternité. Parfait Chaba, analyste des programmes du Fonds des Nations Unies pour la population dans la zone sud-est, souligne que les femmes Twa qui accouchaient autrefois en brousse fréquentent désormais cette maternité.
Un des objectifs de ce projet était de mettre en place des infrastructures communautaires pour permettre l'accès aux services sociaux de base équitable à toutes les deux communautés. Et donc, ici nous sommes à la maternité qui a été mise en place pour favoriser des accouchements sécurisés de femmes dans cette communauté.
Pour Josephine Muzinga, habitante de Ongwa, cette maternité va les aider à réduire les décès maternels.
C'est le site qui a demandé, vu les difficultés qu'ils avaient, les dames qui accouchaient, qu'ils allaient à distance à Kalemi à 13-15 km, et les femmes trépassaient en cours de route, les autres même accouchaient en route.
Au-delà de l'accès aux soins, ces centres de santé contribuent à renforcer la cohabitation pacifique et la cohésion sociale entre les communautés Twa et Bantu dans une région longtemps marquée par les tensions.
Autre fait marquant de ce jour dans le village de Mutombo Ngindu à Kananga dans le Kasai central, les élèves de l'école Kwachila Mwanampasu ont dû ranger leurs cahiers et rester à la maison en cause l'effondrement de leur bâtiment scolaire consécutif à une forte pluie qui s'est abattue sur la ville. Kananga a également enregistré d'importants dégâts matériels. Face à cette situation dramatique, élèves, enseignants et parents lancent un appel pressant aux autorités pour des solutions urgentes. Les précisions avec André Katende Ngalamulume.
L'école Kwachil Mwanampasu se trouve à 20 km du centre-ville. Elle est l'unique dans le village. Elle compte une centaine d'élèves. Lors de la pluie qui s'est abattue sur la ville la semaine dernière, la toiture de cette école a été emportée et les murs se sont écroulés, rendant ainsi difficile son fonctionnement. Difficile aussi pour les élèves de rejoindre une autre école, car la plus proche est à 5 km de leur village. Ne sachant que faire, les enseignants et élèves se tournent les pouces. Face à cette situation, Maître Alexandre Chama, conseillère municipale de Lukonga, s'est dit profondément touché.
Je lance un SOS d'abord aux autorités locales, mais aussi au gouvernement national. Il y a aussi des partenaires techniques et financiers qui puissent prêter main forte à cette école, parce que c'est une école qui forme les élites de demain.
Ces drames viennent s'ajouter aux difficultés quotidiennes de cette école, dont les infrastructures laissent à désirer, avec de vieux bâtiments dépourvus des bons pupitres. Kananga, André Katinde Ngalamulume, Radio Kapi.
Ce dimanche matin, les habitants du village Kiziba 1, Kanyati et Mukondo, situés dans le groupement Mudja du territoire de Nyiragongo, nous sommes en Nord Kivu, ont été réveillés par des détonations violentes. D'après plusieurs témoignages, des échanges des tirs nourris ont retenti dès l'aube à environ 7 km au nord de Goma. Les affrontements auraient opposé les rebelles de l'AFC M23 aux combattants Wazalendo aux abords du parc des Virunga, selon des sources locales, sans d'autres précision. La panique s'est rapidement propagée parmi les habitants, contraignant de nombreuses familles à fuir vers les quartiers Turunga et Ndosho dans la ville de Goma pour se mettre à l'abri. La société civile de Nyiragongo rapporte qu'une personne a perdu la vie et que deux autres ont été blessés par des balles perdues. Un calme précaire semble s'être installé, mais la peur reste palpable dans la région, marquée par une forte psychose selon les sources locales. Parlons à présent de ce drame survenu au sud Kivu. Trois enfants d'une même famille ont tragiquement perdu la vie dans un incendie survenu hier en début d'après-midi au quartier Nyalukemba, avenue Kayabu 2, dans la ville de Bukavu. Le feu a ravagé 6 maisons au total. Selon des témoins, des jeunes du quartier se sont mobilisés avec des moyens du bord pour contenir les flammes et empêcher leur propagation à d'autres habitations. Mais à Bukavu, les incendies deviennent de plus en plus fréquents dans une ville dépourvue de véhicules anti-incendie où les maisons sont construites les unes contre les autres. Jusqu'à présent, l'origine de ces incendies reste inconnue, alimentant l'inquiétude des habitants. Une question brûlante se pose. Assiste-t-on à une scission au sein de la Convention pour la Révolution Populaire CRP, dirigée par Thomas Lubanga? 5 membres fondateurs de ces mouvements politico-militaires ont annoncé leur départ fracassant dans une déclaration rendue publique samedi à Kampala, capitale de l'Ouganda. Ces cadres démissionnaires ont formulé de lourdes accusations à l'encontre de leur président. Ils dénoncent notamment une mauvaise gestion des pratiques affairiste et un repli tribal qui, selon eux, mine l'esprit du mouvement. Le point avec Martial Kizabiamungu.
Parmi les 5 fondateurs figure celui qui était jusqu'ici le premier vice-président de la CRP, Charles Bunga Muzika Kani. Tous dénoncent ce qu'ils qualifient d'antivalère qui ruine selon eux leur mouvement. Dans leur déclaration ce samedi à Kampala, ils accusent Thomas Lubanga Dilo, leur président, d'être à la base de ces dysfonctionnements. Ces membres initiateurs de la CRP indiquent que depuis la création de leur mouvement le 7 janvier 2025, Thomas Lubanga Dilo s'est distingué par la mégestion et l'affairisme. Selon eux, Thomas Lubanga met également à contribution des opérateurs économiques de l'Ituri à qui il demande de l'argent au nom de la CRP et au titre de l'effort de guerre. Outre leur décision de claquer la porte de leur mouvement, ces 5 cadres fondateurs de la Convention pour la Révolution Populaire CRP demandent également aux fils et filles de l'Ituri de ne pas soutenir la rébellion au profit de la paix durable à Ituri. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Poursuivons ce journal avec une préoccupation majeure dans la province de la Mongala. Les difficultés d'évacuation des produits agricoles vers les centres de consommation. En visite à Lissala, chef-lieu de la province, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mokoko Samba, a constaté des vissus, l'ampleur du problème. Au port de l'Onatra, il a découvert d'importants stocks de sacs de maïs et d'autres denrées de première nécessité, produits localement mais bloqués. Faute de moyens logistiques pour les acheminer vers Kinshasa. Reportage signé Blaise Makassi.
À l'approche de la nouvelle saison, les agriculteurs ont plaidé pour une évacuation rapide de ces produits. Poncien Nzemo Timbuza, inspecteur provincial de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, rapporte que le ministre a proposé des solutions concrètes pour débloquer la situation.
Ce qu'on retient d'abord, hier on a été à Bomba, on a plaidé pour les riz et nous avons des réponses positives par rapport à son engagement et la synergie qu'il a proposé à travailler avec l'agriculture et sécurité alimentaire. Aujourd'hui, nous sommes à Lissala, on lui a fait voir les maniocs. Pour nous, nous avons tout espoir que voir une autorité comme ça dans les champs, ce n'est pas pour rien, il a une vision. Et c'est cette vision-là qui est pleine d'espoir et d'avenir pour l'économie, même agricole, de la province de la Mongala.
Le vice-premier ministre s'est également rendu aux installations de l'Office de voirie et drainage, OVD, pour s'enquérir des moyens disponibles afin de lutter contre les érosions, un problème majeur qui affecte la ville de Lissala. Il s'est par la suite entretenu avec les opérateurs économiques locaux, les représentants de la société civile, de la Fédération des entreprises du Congo, l'Association des femmes rurales et les notables de la ville.
Dans le même chapitre économique, cap sur le Nord Kivu, la société civile du territoire de Walikale relance son plaidoyer pour une répartition plus équitable de revenus issus de l'exploitation minière. Elle exhorte le gouvernement congolais à veiller à ce que les redevances minières soient réellement utilisées pour le développement local à travers des projets concrets, notamment au bénéfice des communautés directement impactées par cette activité. Ces recommandations ont été formulées à l'endroit d'une délégation parlementaire conduite par le député Michel Moto, élu de Walikale, qui vient de boucler une mission d'enquête sur les activités minières dans la région, en particulier celle de la société Alpha Mine Mining. La société civile dit fonder beaucoup d'espoir sur le rapport attendu de cette mission, espérant qu'il reflétera fidèlement la réalité du terrain. On écoute Fiston Missona, président de la société civile de Walikale.
Nous voudrions que cette mission puisse élaborer un rapport qui sera en tout cas église au milieu du village. Et nous, en tant qu'organisation citoyenne, nous aimerions du côté de la société puisse améliorer leur façon de faire, leur façon d'exécuter les activités liées au cahier des charges, mais également le paquet affecté auprès du gouvernement congolais, notamment de la redevance minière. Les 0,3%, y compris aussi les 10% de la génération future, puissent être bénéfiques au peuple congolais, en général et en particulier ceux du territoire de Walikale. Parce que les trois paquets-là restent entre les mains du gouvernement congolais, qui jusqu'à maintenant, nous ne voyons pas assez de grands projets visibles ou bénéfiques aux fils et filles du territoire de Walikale. Que ces rapports soient publiés pour que à l'Assemblée nationale et aussi au gouvernement congolais, de voir dans quelle mesure ces recommandations puissent être suivies et exécutées telles que nous avions recommandées.
Actualité internationale.
Deux frappes aériennes israéliennes ont visé ce dimanche la ville de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Selon l'armée israélienne, ces frappes ont été menées en réponse à des attaques du Hamas qui auraient lancé une grenade et ouvert le feu sur des soldats israéliens au-delà de la zone tampon. L'armée qualifie ces actes de violation flagrante du cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre. De son côté, le Hamas rejette ces accusations. Un haut responsable du mouvement affirme que le groupe reste engagé dans le respect de l'accord de trêve, tout en accusant Israël d'en être le véritable auteur de violations répétées.
L'invité.
Zoom à présent sur la gouvernance des ressources naturelles en RDC. La coalition Congo n'est pas à vendre, appelle le gouvernement congolais à lancer un audit sur la cession des actifs miniers, notamment ceux de la Gécamine, afin de permettre au pays de recouvrer ses droits. Cet appel a été lancé dans une note publiée ce week-end à Kinshasa. Pour en parler, nous recevons Dirk Chaka, coordonnateur de la coalition Congo n'est pas à vendre. Il répond aux questions de Blaise Chinanikamba.
Docteur Dirk Chaka, bonjour.
Bonjour.
Congo n'est pas à vendre, à organiser une activité. De quoi s'agissait-il au juste?
Nous avons publié la note sur le cobalt, sur le cobalt à prix cassé et la corruption à plein tarif, qui est une note d'analyse que le CENPAV venait de publier il y a de cela un mois et demi au Katanga. Et cette publication s'est faite ici à Kinshasa. Et cette note, produite par CENPAV, fait au fait un panorama du bradage des actifs miniers de la Gécamine dans le projet Mutanda Mining et qui essaie de retracer le processus par lequel la Gécamine a cédé ses parts et les différents éléments en lien avec la corruption qui a amené à cette cession des parts de la Gécamine. Et parmi les acteurs qui ont été cités dans cette note, il y a le groupe Ventura qui appartient à l'homme d'affaires israélien Dan Gettler et qui a réagi donc à l'issue de la publication de la première note qui a été faite à Lubumbashi. Nous avons aussi tenu de revenir au fait sur la réaction du CENPAV au communiqué et à la note du groupe Ventura sur les transactions liées au projet minier Mutanda Mining. Et la note donc, s'est intitulée « Royalties occultées, silence calculé de Ventura ». Comme cette note avait été transmise de manière confidentielle à certaines structures, bien qu'elle a été maintenant publiée, nous avons tenu à y reporter une réponse tout à fait exhaustive pour expliquer effectivement notre approche de travail, l'objectivité qui a mené à ces conclusions, mais aussi revenir sur les recommandations que nous avons faites par rapport à ce qui avait été mal fait dans le processus de cession de ces actifs de la GECAMINE.
Qu'est-ce que vous reprochez à Dan Gettler, au fait, dans cette histoire?
Nous ne reprochons pas seulement à Dan Gettler, nous reprochons un certain nombre de faits qui procèdent de l'opacité qu'il y a eu dans le processus de cession de ses parts. Et pour ce que nous voulons aborder des questions de fond, nous avons donc abordé des questions liées à l'absence d'appel d'offres, à la non-publication des contrats, à la cession irrégulière des revenus stratégiques comme les royalties de la GECAMINE. Et nous avons essayé de revenir sur des chiffres importants qui étaient non seulement publiés dans les contrats et qui parfois n'étaient pas correspondantes à ce que les entreprises elles-mêmes avaient publié sur leurs différents versements qu'ils ont fait à la GECAMINE, aussi bien que les différents manques à gagner que ces différentes transactions ont apporté vis-à-vis que la GECAMINE a connu dessus de ces transactions. Nous rappelons qu'il ne s'agissait plus même de parler de la question de corruption parce que la corruption dans ce processus a déjà été établie par la justice suisse qui avait condamné Glencore pour n'avoir pas usé de son droit de préemption dans ces transactions et Glencore n'avait pas fait appel et a dû payer les différentes pénalités qui lui avaient été infligées. Et donc il s'agit plutôt de pouvoir faire un travail qui permet au gouvernement congolais de pouvoir réaffirmer d'une certaine manière le besoin d'audit sur la manière dont ces différents actes par de la GECAMINE ont été cédés, de permettre au gouvernement de pouvoir analyser la pertinence de pouvoir prendre en compte ces contrats et dans quelle mesure le gouvernement congolais peut être remis dans ses droits parce que le processus d'acquisition de ses parts avait été entaché de beaucoup d'irrégularités.
Comment expliquez-vous que Vantoua est accusé mais en même temps le gouvernement congolais est en train de faire les plaidoyers pour tenter de faire enlever les sanctions contre cette entreprise?
Oui, nous savons que le gouvernement avait fait un accord avec M. Dan Gettler autour des questions qui le concernaient parce qu'il a été effectivement engagé dans plusieurs cas de bradage des ressources naturelles, la RDC, et le gouvernement avait essayé de faire un accord pour permettre que le groupe Pantora puisse redevenir un acteur fiable par rapport à son partenariat avec la RDC. Et dans cet engagement, la RDC avait pris l'engagement de pouvoir faire un plaidoyer pour la levée des sanctions contre Ventura. Et pour nous, nous ne pensons pas que ces sanctions méritent d'être levées parce que beaucoup d'opacité continue à entourer l'implication de groupe Ventura dans les secteurs extérieurs.
Vous, en tant que société civile, comment trouvez-vous cette attitude du gouvernement congolais?
Nous pensons que le gouvernement devait saisir l'opportunité de ces sanctions pour diligenter un processus d'audit sur les affaires et l'implication de M. Dan Gettler dans les entreprises du secteur extractif congolais. Cet audit devrait mener à des processus judiciaires pouvant permettre à la RDC de pouvoir établir les responsabilités des acteurs impliqués, mais aussi les pertes que la RDC a connues dans ces différentes transactions, et en fin de compte permettre à la RDC de se rétablir dans ses droits et éviter que nous ne tombions dans le piège de pouvoir, par exemple, racheter des actifs qui pourtant étaient déjà acquises de manière frauduleuse et par la corruption. Et donc, ça serait un manque à gagner supplémentaire pour la République démocratique du Congo, sachant que la RDC a besoin des ressources importantes pour la construction du pays, pour faire face aux différents défis sociaux auxquels la population fait face.
Docteur Dirk Chaka, je vous dis merci beaucoup.
Merci beaucoup à Radio Okapi.
C'était Dirk Chaka, coordonnateur de la coalition Congo n'est pas à vendre. Il réagissait à l'appel lancé par sa structure en faveur d'un audit sur la gestion des actifs miniers de la GECAMINE dans le but de garantir une meilleure transparence et de permettre à la RDC de recouvrer ses droits. Il était au micro de Blaise Shindani Kambala. Ainsi s'achève ce journal d'information. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Restez connectés à Radio Okapi pour la suite de l'actualité. Excellent dimanche à toutes et à tous.